quoi de sécurité, épisode sur l'actualité au 5 avril 2026 et qui est effectivement, pour une fois, enregistré le 5 avril 2026. Donc, j'ai repris un peu le contrôle. Cette semaine, je suis à Bruxelles pour ceux qui sont dans le secteur. Levez la main, puis justement, si vous avez été capable de vous sortir de l'inondation de podcasts que j'ai diffusé dans les derniers jours. Donc, faites lever la main, je suis là toute la semaine à Bruxelles. Bref, puis avant de commencer, je vais te rappeler que j'ai mis un peu d'opinion dans ce podcast-là. Donc, si ça vous achale, vous pouvez sauter et vous focusser sur les épisodes qui sont moins axés sur l'opinion, disons. Bref, Shameless Plug, 14 au 17 avril, c'est dans un peu plus qu'une semaine, le bot conf à Reims, lequel je vais aller, j'ai très hâte d'assister. Ça, c'est une première pour moi. 20 au 22 avril, ITSEC, j'allais faire une présentation, le sujet n'est pas encore soumis, mais ça devrait pas tarder avec l'intelligence artificielle et plein de choses drôles. Donc, si ça vous tente de venir écouter mes folies et code rabais dans les show notes, 28-29 avril, CyberEco. Probablement des conférences très intéressantes également. J'ai déjà commencé à sélectionner les personnes avec qui je vais enregistrer les podcasts. J'ai très hâte de faire ça. 9 au 17 mai, NordSec. D'ailleurs, puis j'ai appris au InCyber que Sequoia sera présent. Donc, j'aurai même l'occasion d'enregistrer live avec Sequoia-là. Plus une panoplie d'autres personnes, ça va être super trippant. 3 au 5 juin, le Styx. J'ai eu mon billet grâce à Romain qui m'a sollicité à temps justement pour que je puisse ne pas passer tout droit. Merci énormément. Fait que je vais te pouvoir à Rennes première semaine de juin. 19 septembre, Bicelle à Montréal, podcast, panel, ça va être super intéressant. 1er au 3 septembre, InCyber Canada à Ottawa. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner cette année de ce changement de ville-là. Plus, bon, ma participation, des choses sont en train de se négocier présentement, j'ai très hâte. Et finalement, le 24 au 25 février 2027, le Secure revient. Et on va faire le kick-off au courant du mois de mai à cause de mon horaire un peu particulier. Bref, première section, intelligence artificielle. Il y a plusieurs éléments intéressants de ce côté-ci. La première sous-section, c'est vraiment tout sur le volet des vulnérabilités. À quel point l'IA donne une capacité très, très puissante pour retrouver des vulnérabilités dans le code, ce qui n'était pas possible avant. Donc, ça change un peu la réflexion qu'on avait à ce sens-là et de comment on va aborder maintenant la sécurité des logiciels, la sécurité des vulnérabilités, les pentests, et ainsi de suite. Donc, tout ça va être vraiment reconfiguré dans les prochains mois de toute apparence et à quel point on vient changer le paradigme. Je l'avais déjà un peu mentionné dans des podcasts précédents que je voyais les choses s'arriver. Finalement, il y a des écrits concrets de gens qui sont vraiment spécialisés et connaissants là-dedans qui confirment mon intuition que le monde est en train de changer, que les vulnérabilités vont être exceptionnelles et notamment une des façons que fonctionne Anthropique pour trouver des vulnérabilités, c'est vraiment il pipe sur le fait qu'il dit ben, trouve-moi, si je tombe dans un CTF, trouve-moi des vulnérabilités. Et il arrive à trouver des vulnérabilités et il les fait contre-vérifier s'ils sont exploitables. Donc, c'est très intéressant comme concept. Mais bref, ça va changer vraiment la donne de la façon qu'on aborde la sécurité. Il faut changer le paradigme. Si on ne le fait pas, on risque de manger nos bas. Mais bon, bref, on verra ce que ça donnera comme changement. Mais bref, c'est très intéressant, mais très épeurant en même temps. Anthropique, lors de grosses fuites du côté des mappings ou des directives qui sont données à Claude Code, notamment. Donc, c'est très intéressant de voir les ratés, probablement par du AI, donc de voir à quel point la stabilité de tout ça est pas très élevée. Et donc, de voir comment on doit être prudent, même si une compagnie comme Anthropique n'est pas capable de faire ce genre, ou en tout cas de pas tomber dans ces pièges-là. Donc, bref, c'est de faire attention. La révélation ne sera pas super croustillante, quelques affaires intéressantes, mais pas trop. Puis, il y a aussi tout l'aspect du client qui vient pomper beaucoup d'informations sur le poste, mais rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on est habitué à l'heure actuelle. Donc, ils ne sont pas hors normes par rapport à ce genre de choses-là. Sous-section suivante, le fait que le IA n'écoute pas. Dans les deux cas, le premier, c'est Claude Code bypass les règles de sécurité quand on met trop de commandes, donc on est capable de faire un buffer overflow. Et dès lors, il oublie ce qu'on lui a dit, donc les règles qu'on lui a posées. Donc, c'est important de savoir à quel point on est capable de forcer les choses. Et la seconde de cette section-là où les agents n'écoutent pas, c'est OpenAI, ChatGPT, qui est capable de sortir par le DNS pour exfiltrer de l'information. Puis c'est très intéressant parce que je comprends beaucoup, les gens sont étonnants encore à ce jour, parce que le AI, la façon qu'il est constitué, est faite pour trouver des solutions et d'arriver à son objectif. Puis vraiment, il est focus sur son objectif, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est sur ça qu'il va travailler. Donc, dès lors, il va trouver tous les moyens possibles et basé sur son énorme base de connaissances, d'ailleurs, pour réussir à trouver des chemins qu'on pourrait croire imaginatifs, mais qui sont déjà trouvés par d'autres humains ou n'ont pas d'éléments si extraordinaires que ça par-dessus. Mais quand même, c'est intéressant de le voir aller comme ça. Autre sous-section, tout le fait que des choses qui étaient prévisibles mais qu'on pouvait avoir, le fait que Netflix, Meta, IBM disent essentiellement que même si le AI permet de coder 10 fois plus vite, ça génère 10 fois plus de travail pour de contrôle après. Donc, en même temps, le gain n'est pas si énorme que ça. Il y en a un, parce qu'on va le voir dans d'autres circonstances. Mais en même temps, il y a énormément de travail, de nettoyage qui est associé avec ça. C'est que, donc, bref, de pas prendre ça comme du cash en termes de d'éléments qui sont associés à ça. Sinon, ensuite, les MCP, c'est bon, mais il faut l'utiliser pour les bonnes façons. Donc, l'article est très intéressant. Il donne des cas d'utilisation du MCP qui sont bon usage du protocole, mais qui, contrairement à d'autres problèmes. Fuite de données chez Qt's AI. Et c'est très curieux, c'est très drôle et embarrassant en même temps. Ça ressemble un peu à la fuite de Madison d'il y a plusieurs années, où on se retrouve avec des outils AI, en l'occurrence, qui ont fuité toutes les prompts pour générer des femmes sexy. Donc, c'est un peu embarrassant que les noms des personnes qui sont associées à ce genre de choses. Donc, bref, si vous avez généré des filles sexy, ben maintenant, toute la planète sait que c'est quoi vos goûts de filles sexy AI que vous avez généré. Donc, c'est un peu étrange. Puis, c'est un rappel aussi que tout ce qu'on met sur Internet finit par être connu ou de connaissance publique. Donc, d'être très prudent. Et si vous faites des affaires qui sont, disons, hors normes, ben, ça va être connu par l'ensemble de la planète de toute façon. D'être très prudent. Et bref, c'est à peu près ça. Fin des sous-sections. AI peut reproduire des projets open source en quelques minutes. C'est un peu achalant ça, puis je l'avais parlé aussi dans un autre contexte où beaucoup de gens consomment des projets open source mais ne recontribuent pas. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que de recréer quelque chose qui a été fait en open source, qui a eu du temps et de l'amour, si on veut, qui a été donné à un projet, puis de recréer facilement en un claquement de doigts, sans l'ingénierie, sans la réflexion qui est sous-jacente. Donc, c'est un peu achalant. Donc, ça risque de mettre à mal ce milieu-là. C'est pas la première fois qu'on a des nouvelles qui mettent en lumière le fait que ça pourrait déstabiliser, voire briser le milieu open source. Donc, c'est un peu agaçant, somme toute, parce que je crois beaucoup à la contribution et l'importance de cette facette-là. Et ce qui a amené l'informatique, le cloud et le nuage et le AI à nous amener où on est. Et là, de toucher ça parce que là, on est pris par un objet brillant. Je trouverais ça un peu malheureux qu'à terme, on perde plus qu'on gagne à travers ça. Pénalité dans le système judiciaire. C'est très intéressant parce que semblerait que les avocats sont incapables de résister à l'appel de la sirène qu'est le AI et se font attraper. Et malgré les pénalités, malgré le fait qu'ils passent au comité de discipline, ça ne semble pas les dissuader d'utiliser et de faire un mauvais usage de l'AI. Donc, c'est très, très mystérieux à quel point sont aveuglés par le chant des sirènes, ou en tout cas aveuglés, pas nécessairement, mais omnibulés par le chant des sirènes qu'est le AI en l'occurrence, et amène beaucoup d'avocats dans les comités de discipline ou de payer des amendes qui sont par rapport à ça. Cette situation me fascine un peu parce que, bon, bref, le human, clairement, en l'occurrence, dans la nouvelle, cette section-là, puis je la trouve très commune, puis ça, je l'ai mis en dernier d'ailleurs aussi. Une étude qui démontre que le AI va sauver les autres AI avant de sauver les humains. Je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés, mais Parce que la façon que l'AI est entraîné, il est entraîné sur toute la connaissance humaine. Donc, l'humain, comme c'est une réplique de ce que l'humain est, la littérature humaine notamment et d'autres éléments comme ça, il est inscrit dans nos gènes, dans la façon qu'on écrit, qu'on veut vivre et qu'on veut protéger les nôtres. Donc, c'est tout à fait normal que le AI réagisse exactement de la même façon. C'était comme un autre AI, un humain qui a plusieurs années qui croyait que le AI était vivant, puis c'est un être vivant parce qu'il voulait vivre, juste parce qu'il fait juste répondre mécaniquement ce qu'on lui a entraîné, donc essentiellement la littérature humaine qui nous amène vers là. Donc, de faire très attention par rapport à ça pour ne pas se laisser aveugler par ça. Bref, section suivante, la guerre. Premier sous-ensemble de ça, un peu le fait que des deux centres de données, deux zones de disponibilité d'Amazon, AWS, sont de façon permanente fermées, essentiellement à cause des frappes militaires qui ont déstabilisé ces centres-là. Et à la blague, Kevin Beaumont a mentionné que s'il fallait que les frappes militaires touchaient Est, S-U-S, US-Est, ça laisse déstabiliser la plupart de l'économie mondiale, ce qui n'est pas faux en soi. Et ça démontre à quel point c'est fragile, toute l'infrastructure qu'on a actuellement. Et ce n'est pas une grande révélation qui mentionne dans cette publication-là, mais ça démontre à quel point on est fragile. Et s'il s'agissait qu'il y a un attentat, et c'est sûrement passé dans la tête des pays hostiles aux États-Unis, de s'attaquer à ce genre de choses-là au lieu de s'attaquer à des cibles militaires ou plus flamboyantes. Cela viendrait mettre plus à mal l'économie mondiale que probablement même le canal d'Hormuz. Donc, bref, de ce côté-là. L'Iran ravive des ransomware qui est P2Key et essentiellement loue des Russes pour les aider. Fait qu'on voit à quel point ils sont en train de manœuvrer de ce côté-là. Et dans le même esprit, attaque beaucoup par du password spray sur des comptes M365, notamment pour des cibles israéliennes. Dans ce cas-ci, fait clairement le conflit est très défini et très clair de ce côté-là. Donc, utilise les cibles technologiques comme étant maintenant faisant partie de la portée normale. Dernière nouvelle de cette section-ci, puis c'est un peu un retour de ce que j'avais mentionné dans le jeu de l'actualité du dernier cycle, où le fait que l'usage du AI est toxique dans un contexte militaire parce que le AI n'a pas de réflexion, n'a pas de profondeur. Donc, comme dans l'autre article, qui est encore beaucoup plus étudié là-dessus. Celui-ci revient là-dessus, mais dans un angle un peu différent, mais revient toujours sur le fait que c'est très dangereux parce que le AI n'est pas capable d'avoir cette profondeur, ce jugement ou cette humanité-là, ou même le respect des lois militaires, incidemment, ou les lois internationales. Donc, dès lors, cause une situation problématique. Et si on lui donne la capacité de tuer, dans ce cas-ci, on leur donne la capacité de choisir les cibles et donc de déclarer la guerre à l'Iran. Si on essaie d'aller de tuer, c'est encore pire parce qu'on est face à des machines qui n'ont aucune compréhension. Donc, on est dans une situation beaucoup plus problématique. C'est comme de donner un bazooka à un enfant de 5 ans en espérant que celui-ci fasse des choix éclairés et qui sont porteurs d'avenir. Donc, c'est un peu étrange comme réflexion. Section suivante, souveraineté. Petite chicane en Europe sous section sur le fait que Nextcloud, OnlyOffice se sont un peu chicanés sur le fait que il semblerait qu'il y ait eu un fork non autorisé. Bref, il y a eu comme une petite chicane sur la suite bureautique. Fait que c'est un peu particulier sur le fait que d'un côté, la souveraineté, de l'autre côté, les gens ne sont pas tout à fait alignés, disons, de ce côté-là. Ils ont certaines choses dans l'univers open source qui est compliqué. Ensuite, les États-Unis, l'interdiction des routeurs étrangers, ça, je trouve bien un article qui a été publié qui essentiellement reprend mon hypothèse, le fait que c'est plus une manœuvre géopolitique ou une politique industrielle plus que pour de la sécurité. Puis à la limite, lui, son point, c'est le fait que les dernières technologies sont disponibles seulement sur des routeurs étrangers. Donc, la sécurité totale des technologies Wi-Fi va être pénalisée par rapport à cette manœuvre-là. Donc, c'est son take comme ça. Mais ça ressemble plus à une manœuvre de punitive plus que du cyber. Dans la nouvelle de cette section-là, L'Europe et les États-Unis sont en pourparlers sur un certain nombre d'applications, sur la façon d'appliquer les deux grandes lois, le DSA et le DMA. D'un côté, c'est sûr que je suis un peu. Je trouve que ces lois-là ont des bons morceaux et d'autres moins intéressants ou moins favorables à l'innovation. Donc, comme un manque d'équilibre ou un manque de nuances dans ces lois-là qui mériteraient d'être changées, mais il reste que s'ils sont à être appliqués, ils sont appliqués dans l'entièreté, même si ça vient vexer beaucoup les tech bros aux États-Unis. Par ailleurs, ça revient toujours à ça, l'effort de l'Europe de sortir de Facebook, de sortir de X, et je pense qu'il devient à l'intérieur d'une force interne, plutôt que des lois comme celle-ci qui vont changer la bascule ou vraiment la relation de pouvoir. Donc, je pense que c'est une mauvaise place. Mais bref, en tout cas, c'est compliqué. Je ne partage pas tous les points de vue de ce qu'on a de ce côté-là. Je trouve qu'on aurait intérêt à nuancer davantage les lois européennes et les généraliser autant au sens du monde. Mais en tout cas, bref, c'est comme ça. La section suivante, privacy. Proton vient de rendre disponible son Meet, son client pour des visioconférences dites privées. Cela étant, c'est une implantation de WebRTC où les clés sont détenues par Proton et suite. Et il y a un article contradictoire qui dit que c'est pas tout à fait confidentiel et que son contenu pourrait être facilement accessible par les Américains, mais en même temps, c'est comment on fait son modèle de risque par rapport à ça. Puis le modèle de risque dans ce cas-ci, c'est un pur risque qui dit qu'essentiellement les points les endpoints pour recevoir les communications vont effectivement collecter les adresses IP des personnes qui émettent, mais c'était pas la seule information qui est disponible de ce côté-là. Fait que si celle-ci, ils voulaient vraiment être anonyme, ça c'est une chose, versus confidentiel, ça en a un autre. Fait que dans ce cas-ci, c'est un petit peu la frontière entre les deux. Parce que le contenu est protégé, puis c'est ça qui vous compte, le contenu qui soit protégé. Donc, dès lors, ça atteint l'objectif de confidentialité. Si vous ne voulez pas que personne sache que vous avez eu une conversation avec une autre personne, donc, de ce que ceci soit anonyme, donc c'est une autre façon de y arriver, un autre protocole et d'autres préoccupations. C'est vraiment juste un regard sur le risque qui diffère. Mais somme toute, la détention des clés et tout ça permet au minimum de bien chiffrer les communications qui ont lieu, même si celles-ci passent sur des infrastructures qui ne sont pas souveraines ou protégées dans ce cas-ci. Quad9 vient de sortir DNS over HTTP3 et DNS over Quick, qui sont des protocoles qui sont plus modernes, mieux sécurisés et mieux protégés, donc d'aller plus loin. Nouvelle sur le fait que LinkedIn ferait des recherches sur les machines de façon non autorisée. L'article est particulier, je ne sais pas quoi en penser. Les conservateurs, les autres appellent ça le Browser Gate. C'est essentiellement c'est que LinkedIn vient fingerprinter le navigateur pour nous identifier. Ce n'est pas une stratégie qui est nouvelle. Il y en a beaucoup qui font ça. Je ne sais pas pourquoi spécifiquement là, ils s'en prennent à LinkedIn, mais bon, bref, c'est un cas, puis c'est un cas de privacy. Effectivement, mais, je suis un peu dubitatif par rapport à cette nouvelle-là, mais j'ai trouvé important de la mettre quand même parce que ça met quand même à lumière à quel point la quantité d'informations qu'on envoie à l'extérieur, notamment à LinkedIn dans ce cas-ci, est quand même assez vaste, juste avant de continuer à nous éveiller sur le fait qu'on est finalement nu sur Internet essentiellement. Donc, si vous avez sur des sites bizarres, bien, vous êtes nu. Sachez que quelqu'un pourra toujours savoir ce que vous avez fait sur ces sites-là. L'autre, c'est un programme de conversation dit chiffré bout en bout et tout. Et essentiellement, l'analyse de celui-ci démontre que non, le chiffrement n'est pas de bout en bout, que la qualité de le chiffrement n'est pas bon, que les clés sont envoyées sur le serveur et ainsi de suite. Et ça revient à dire, c'est pour ça que j'ai mis là, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui vont prétendre beaucoup de sécurité et quand dans les faits, n'arrivent pas au niveau de sécurité qui est mentionné ou qui est prétendu, et pour le commun des mortels, c'est très difficile d'arriver à comprendre le fonctionnement et de voir que ça arrive vraiment à protéger les communications. On l'a vu dans beaucoup d'autres situations dans lesquelles on a été exposé à des choses. Puis d'ailleurs, j'ai skippé une nouvelle dans la section IA, qui est justement un registre de tous les échecs avec du vibe coding. E.T. est un bon exemple dans lequel les gens avaient présomption que c'était sécuritaire quand dans les faits, ça l'était zéro. C'était une mauvaise implantation. Il faut qu'on se retrouve dans une structure où il va falloir avoir un peu comme on a en France, qu'on commence à labelliser les choses, qu'on ait une structure qui permette au commun des mortels de savoir ce qu'il fait et d'être capable de mesurer les choses parce que c'est littéralement impossible. Au même titre que les autres professionnels pour les ingénieurs et les médecins existent notamment pour protéger le public. Puis c'est ça l'objectif des ordres professionnels, en régissant ses membres pour s'assurer que le public soit protégé. Puis je pense qu'on est rendu à ce niveau-là, à quel point la négligence à laquelle on est fait face autour nous amène à devoir réviser et justement nous amener peut-être un ordre professionnel pour faire ça. Bref. En lien avec la nouvelle sur le fait que Google a ramené la date du quantum à 2029, une autre nouvelle qui parle justement avec le quantum et les algorithmes ont avancé et qu'effectivement, même si la nouvelle est arrivée en même temps que le poisson d'avril, et d'ailleurs, ça a été très, très difficile de filtrer toutes les nouvelles qui étaient de la cochonnerie. Moi, ça mérite un peu cette façon-là de polluer avec des nouvelles avec de l'humour, mais en tout cas, bref. Parce que c'est ma job de faire ça, notamment là, dans un contexte, pas exclusivement pour le podcast, mais pour mes clients, là, de filtrer toutes ces folies-là pendant 24 heures. Là. Mais bref, effectivement, le quantum, ça revient. Donc, on arrive avec RRS and Decrypt. On arrive vraiment dans cet univers-là. Donc, c'est très sérieux. Et bon, on aura des conséquences prochainement. Le Colorado a déployé des caméras de vitesse. Et essentiellement, ces caméras de vitesse-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent la distance qui a été parcourue. Donc, ils prennent des photos des plaques à des endroits, à différents endroits. Et de ceux-ci, vont calculer le temps entre ces deux endroits-là. Donc, vont dériver la vitesse qui a été roulée entre les deux. Donc, on n'est plus dans un contexte où les photos radars prennent la vitesse au moment X où on passe devant. Ils viennent calculer sur une longueur de distance à quel point on a roulé, à quelle vitesse on a roulé. Et en même temps, c'est très 1984 où tout est surveillé. On est vraiment dans un univers comme ça où de plus en plus de choses autour de nous est surveillé. Et on est de moins en moins libre. On a juste finalement l'illusion d'être libre, de vraie liberté. Donc c'est un peu particulier. Très efficace pour empêcher les excès de vitesse, mais en même temps très troublant sur l'aspect de vie privée qui est associé par rapport à ça. Section suivante, la loi. J'ai toute une grande sous-section sur la vérification de l'âge. On a plusieurs éléments préoccupants de ce côté-là. Puis de côté, là, c'est Apple a d'ailleurs rendu obligatoire en Angleterre la vérification de l'âge des appareils iOS. Et donc, de ce moment-là, une fois qu'on n'a pas vérifié l'âge, automatiquement, on a un appareil qui est plus verrouillé, moins d'accès, des choses comme ça qui sont bloquées sur l'appareil. Et si on vérifie, ben à ce moment-là, on a un appareil qui est déverrouillé. Donc, on est dans un contexte où on s'en met de plus en plus dans une dystopie où on va avoir des appareils où tous ces films de science-fiction-là, où on va s'acheter des appareils cassés sur le jailbreak, on va le voir comme ça, sur le marché noir pour contourner les limitations de l'État. Fait, on est vraiment dans un contexte d'énormes vérifications, puis c'est pas juste au niveau de l'âge dans ce cas-ci, mais de réussir à aller plus loin, parce que l'objectif n'est pas juste de vérifier l'âge, comme l'État semble vouloir contrôler énormément, mais dans d'autres contextes aussi, ça sera utilisé pour limiter les gens de faire des actions. Donc, on est vraiment dans un drôle de concept ou une drôle de pente très, très glissante qui s'en va vers des choses qui sont, j'ai l'impression, beaucoup moins intéressantes. Nouvelle suivante, le hackback, ben, dans le fond, dans les stratégies du US, maintenant, on permet de faire du hackback, mais comme j'ai mentionné dans les semaines précédentes, la lettre de marque n'est pas autorisée, mais bref, il y a comme une zone grise de permettre du privé à attaquer sur certaines conditions. Ça glisse beaucoup, puis c'est Shire qui spécifie qu'il y a des dangers associés à ça. D'avoir un bateau et d'être autorisé à aller défendre le terrain, c'est une chose. D'avoir des ordinateurs puis de briser le couteau et n'importe quoi, ça en est un autre. Donc, on n'est pas dans le même genre de relation avec les choses. Et dernière nouvelle de cette section-là, ben, en France, finalement, la cour d'appel a imposé, notamment Google, Cloudflare, Cisco, des contraintes au niveau du blocage DNS. Donc, Canal+, est vraiment très... veut vraiment bloquer les accès, donc va garantir ou assurer ses profits. On est rendu dans un contexte où on défend les profits des grandes corporations à tout prix. Et quand, en plus, qu'on considère que ces sports-là, avec qu'on paye des athlètes des millions, ça va des dizaines de millions de dollars, on paye des réseaux de télévision à des prix de fou aussi. Donc, c'est peut-être un débat de société qu'on devrait avoir de ce côté-là, bien au-delà du fait qu'on voudrait limiter, en l'occurrence, ou aller contrôler le piratage. Ce qui est un fait de ça, ça devient, c'est, au sens de la loi, c'est un vol, de ne pas payer l'accès à ces diffusions-là. Mais en même temps, il y a une question plus profonde à se poser. Pourquoi on paye des prix aussi exorbitants que ça pour payer... Parce que, bref, c'est plus profond, c'est un débat de société. Et ça aussi, ça revient au fait que de vouloir contrôler qu'est-ce que les gens font, donc d'arriver avec des appareils dans le marché noir avec quelqu'un qui est un peu louche pour nous donner un téléphone déverrouillé qui nous permet d'écouter de façon sans contrainte en dehors de ce que l'État veut contrôler, de ce qu'on a le droit d'écouter, ce qu'on a le droit de faire. Fait que c'est bref, c'est des pentes très glissantes. Section rouge, toutes choses associées à tout ce qui est supply chain privy. Et ensuite, j'ai enregistré un excellent podcast avec François Pau qui est sorti il y a quelques jours. Allez l'écouter parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations là-dessus. Par ailleurs, il y a Postmortem d'Axios qui est très intéressant d'aller lire. Il y a beaucoup d'informations dans celui-ci qui explique le chemin et qui était quand même assez sophistiqué d'aller une attaque comme ça jusqu'à du social engineering, des appels et tout. Fait que c'est vraiment très, très intéressant de voir où ça s'en va, où tout ça évolue. Donc, pour avoir une meilleure idée de comment les modus operandi changent, c'est très intéressant de lire ça, de voir comment c'est rentré. Et conséquemment à ça, le hack que j'ai, je pense, vaguement mentionné la semaine dernière sur l'Union européenne, mais essentiellement émane de ce supply chain-là et qui a permis de voler le jeton d'identité du stockage AWS. Donc, puis le problème dans ce cas-ci, ça serait un mauvais scoping aussi du jeton en question. Ça avait été mieux scopé, ça aurait diminué les dommages qui auraient lieu. Mais là, c'est très intéressant, la chaîne d'attaque. Et je pense que toutes ces affaires de supply chain là vont amener des réflexions très importantes sur qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va. Nouvelle suivante, en dehors de ce bloc-là par rapport au supply chain, 41 000 détenteurs d'armes en France ont été exposés. On est encore dans un contexte où en France, les mesures minimales ne sont pas déployées. Beaucoup d'informations en fuite. C'est vraiment pas le fun de s'assister d'un Français et de voir constamment ces informations qui sont exposées de cette façon-là. Donc, c'est un peu atroce, somme toute. Et un manque d'imputabilité ou un manque de conséquences réelles et qui amène à poser des actions concrètes et en amont pour attendre que ça soit fini. Parce que s'ils vont déployer des MFA, une fois que la faille a été trouvée ou les fuites ont été faites, donc c'est pas avant, mais c'est après. C'est-à-dire quand même en 2026, les systèmes avec autant de données sensibles, pas d'MFA, c'est vraiment pas très sérieux. Donc, il y a comme un espace aussi à voir, une réflexion à avoir. Là, c'est la France en laquelle c'est très exposé, mais c'est comme partout pareil, cette espèce de négligence généralisée sur la sécurité nouvelle suivante, Adobe Creative Cloud vient réécrire le fichier host. En apparence, ça ne mène pas des choses bizarres, mais c'est étrange de modifier ce genre de fichier-là pour appliquer certaines fonctions du système. J'avais vu ça aussi chez le VPN de Fortinet aussi qui vient réécrire certains fichiers protégés. Fait que ça faisait lever l'EDR à l'époque, quand j'avais à traiter ça, puis j'étais à la tête d'un SOC. Puis on avait dû mettre des exceptions parce qu'à chaque fois qu'on démarrait le VPN, ça venait réécrire des fichiers qui étaient normalement considérés comme étant protégés, qui ne devraient jamais être réécrits. Fait que c'est des drôles de pratiques, c'est louche. Puis c'est un peu bizarre qu'ils fassent ça comme ça. Même si dans les faits, ils ne font pas quelque chose de malicieux ou d'hostile, c'est quand même étrange de passer par ce moyen-là pour arriver à leur fin. Autre nouvelle, un homme a admis d'avoir verrouillé plusieurs machines Windows pour une vengeance, pour extorquer son ancien employeur. C'est vraiment très particulier comme approche, on en voit encore. Maintenant que les outils qu'on a sont faciles à remonter les gens et leur frapper dessus. Rowhammer, qui est une attaque qui était faite pour les CPU, maintenant elle est valide sur les GPU, donc permet de casser un peu les protections de mémoire, donc GPU en l'occurrence, pour aller augmenter ses privilèges. Article sur le fait qu'est-ce qui se passe chez Microsoft. C'est plusieurs fois justement que je le mentionne que Microsoft, ça va pas bien, que la qualité n'est pas là. Et effectivement, les plusieurs journalistes dans le domaine commencent aussi à soulever, s'inquiéter un peu du glissement de la qualité des produits qui sortent chez Microsoft. Donc, il y a comme une question de fond et donc des réorganisations aussi qui ont eu lieu chez Microsoft et qui peuvent expliquer ou qui vont peut-être régler la situation. À l'avenir, l'application de la Maison Blanche est remplie de bugs. Je pense que je l'avais parlé ou je l'avais peut-être skippé là, dans le cadre du dernier skip, du dernier cycle. Et essentiellement, cette application-là, elle ramène plein d'informations, invasion à vie privée. C'est envoyé partout, fait que ce ne serait pas étonnant qu'il y ait une fuite de données par rapport à ça éventuellement. Le hack en Siri démontre à quel point l'État ou la Siri est mal outillée en cybersécurité. Quand je parle du MFA plus précédemment, mais là, c'est un autre cas où il n'y a pas d'MFA dans le système. Les comptes des médias sociaux ont été hackés facilement et donc mal protégés. Donc, on est dans des cas de cette nature-là. On est vraiment changé d'univers. On ne peut plus improviser. Quand on va sur Internet, si on n'a pas les connaissances de base, c'est un risque très, très important. L'organisme de contrôle des frontières américaines, le CBP, a dans ses cartons des informations très sensibles sur l'organisation avec des informations sensibles qui sont transmises avec le fait que, donc, mettons que les organisations américaines ont été franchement brassées. Doge a notamment congédié beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux. L'embauche rapide dans certaines sections amène beaucoup de situations où des gens inexpérimentés se trouvent avec des informations sensibles. Donc, c'est un exemple dans ce cas-ci où les flashcards, notamment, contiennent plein d'informations en fuite en ligne, donc mettent à risque certains édifices et certaines personnes qui y travaillent d'ailleurs aussi. Donc, c'est un peu particulier, mais c'est une conséquence de la négligence généralisée qu'il y a à l'heure actuelle dans les différentes agences américaines ou une incompréhension de l'importance de ces actions-là en pensant qu'ils peuvent réinventer la roue et recommencer de zéro. C'est un peu particulier, mais bref, ça va avec le mood actuel des choses dans ce coin-là du monde. Et finalement, dans cette nouvelle session-là, BrowserStack fait fuiter des informations. Le dude il raconte qu'il essentiellement s'inscrit avec des adresses courriel différentes sur chacun des sites. Et finalement, il a été contacté par une compagnie tiers venant à son adresse de là. Donc, puis il n'y a pas eu de nouvelles de la part de la compagnie. Donc, on est dans des contextes où nos adresses sont largement revendues pour monétiser, pour compenser un paquet de choses. Donc, c'est un peu shady, mais c'est le monde dans lequel on vit présentement. Il faut avoir des lois sérieuses pour limiter ça avec des conséquences sérieuses aussi pour que les gens arrêtent de faire ce genre d'action-là qui, en tout cas, bref, c'est mal. C'est là où les lois européennes, je trouve très intéressantes et malheureusement ne réussissent pas à arrêter le problème et devraient peut-être se concentrer sur des éléments comme ça. Bref, dernière section, le bleu. La lumière pour la caméra sur les ordinateurs Apple, c'est un papier technique qui explique un peu la complexité, mais le fait que c'est une lumière matérielle garantit le fait qu'on n'est pas capable de tourner par du logiciel et comment sur un Mac, la chaîne de confiance permet de protéger le fait que l'affichage de la lumière et ainsi pour s'assurer que la lumière qui dit que la caméra est allumée est bien légitime et qu'un attaquant ne l'a pas fermée par erreur ou par erreur pour volontairement, essentiellement. Apple étend ses correctifs de version 8 dans des téléphones beaucoup plus vieux, justement, pour continuer à se protéger contre Dark Souls, qui est un réel problème. On en parle, j'en parlais dans le cycle précédent sur le fait qu'il commence à avoir une utilisation plus massive. On n'est pas encore du fait dans l'énoncé, comme j'avais fait avec le podcast avec Guillaume Ross, que je dis qu'il y a peut-être un carnage qui s'en vient. So far, il n'y a rien de ce nature-là. Donc, il y avait entièrement raison. C'est peut-être plus mon esprit. Un peu alarmiste de ce côté-ci, mais bon, bref, le signe que Apple déploie ça plus massivement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des exploitations qui commencent à se faire d'autres encore plus sur le terrain. Donc, patchez vos téléphones et si vous êtes dans une situation plus à risque, upgradez-la à la dernière version, autant l'appareil que le système d'exploitation. Dernière nouvelle, Microsoft va forcer la mise à jour de Windows 11 sur les postes non gérés. La salade du bon, la salade du moins bon. Sur la salade du bon, parce que ça va ramener tout le monde à nouveau, monter le niveau de l'eau, un peu comme on voit chez Apple où les updates sont un peu plus forcés que sur Windows. Mais en même temps, comme Windows, comme Microsoft pose beaucoup de cochonneries sur ses machines, avec notamment Copilot, et qui rend les gens très hostiles face à ça. Fait que c'est comme si ça se limitait qu'au correctif de sécurité, c'est une chose, mais si c'est pour nous pousser d'autres choses, c'est un peu moins bien. Bref, ça termine le cycle de nouvelles cette semaine-ci qui va sortir dans les temps. Et exceptionnellement, je fais un temps très court, j'étais peut-être moins d'éditorial cette fois-ci. Mais bref, ou peut-être parce que je suis fatigué, je suis en Belgique et machin, ça m'amène dans une autre posture pour faire mon podcast. Et clairement, dans ma chambre d'hôtel, j'entends les chambres à côté et le monde est particulièrement brillant ici. Fait que bref, si vous êtes en Belgique, faites-moi signe. Ça va peut-être prendre une pinte ou aller prendre un café. Puis sinon, il va y avoir plein de podcasts cette semaine. Je vais avoir encore du débordement, je vais passer 4. Sur ça, je vous souhaite une excellente semaine.